Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Présence. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Métropolez-vous. La vie reprend petit à petit son cours depuis le déconfinement et nous attendons tous la réouverture des terrasses de café et de restaurants dans quelques jours, en espérant bien sûr que le temps sera de la partie. Cette réouverture des terrasses va être accompagnée de celle des lieux culturels. Et des événements vont donc enfin pouvoir se dérouler en accueillant du public. Dimanche dernier, comme c'est la tradition chaque 9 mai, c'était la Journée de l'Europe, qui marque le lancement de la Semaine de l'Europe à Toulouse, comme dans d'autres métropoles européennes. Un certain nombre de manifestations sont programmées dans ce cadre, et c'est aussi l'occasion de faire le point sur les relations de Toulouse Métropole, de la métropole toulousaine en général, avec les institutions européennes, d'autant plus que, comme vous le savez si vous êtes des fidèles de cette émission, plusieurs projets métropolitains bénéficient de financements européens souvent importants. C'est parti pour ce numéro consacré à la Semaine de l'Europe dans la métropole toulousaine. Et pour parler avec nous de la Semaine de l'Europe et des relations de la métropole toulousaine avec l'Union européenne, j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois Jean-Claude Dardelet, vice-président de Toulouse Métropole, chargé de l'attractivité et du tourisme, mais également de l'Europe et de l'international. Bonjour monsieur le vice-président, bienvenue à vous aussi, ravi de vous retrouver dans cette émission. Et je vais vous demander d'abord, parce que nos auditeurs doivent se poser la question, de donner quelques précisions sur le rôle que vous jouez en tant que vice-président de Toulouse Métropole chargé de l'Europe, en quoi consiste votre mission dans ce domaine et est-ce qu'il existe un service affaires européennes ou relations avec l'Union européenne à Toulouse Métropole ?
Bonjour Éric Dupri. Oui, ça existe. Et c'est même une particularité. En 2014, Jean-Luc Moudin a tenu à avoir un élu aux affaires européennes. Ce qui n'est pas banal. Hein. Les municipalités en France considèrent l'Europe comme un moyen pour développer peut-être des activités culturelles ou on le prononce, mais on n'y croit pas forcément. On voit pas jusqu'où on peut aller, surtout. Voilà. Donc là, le maire a tenu à avoir un élu aux affaires européennes et ça tombait bien. Moi, j'ai à peu près 30 ans d'expérience sur les sujets européens dans l'industrie, donc je connais assez bien les arcanes de Bruxelles et tout ce que l'on peut faire avec Bruxelles. Donc j'étais ravi de prendre cette délégation. Et donc j'ai commencé avec les services qui avaient déjà quelques beaux succès à leur crédit. On a commencé à travailler sur la technicité des équipes parce que Bruxelles, c'est une technicité, c'est spécifique. Alors, on dit que c'est complexe. Non, c'est pas complexe, c'est spécifique encore. Il faut s'y consacrer. Alors, les équipes jusqu'à présent se focalisaient plutôt sur ce qu'on appelle les fonds fédères, les fonds régionaux. Et puis, si vous demandez à tous les élus en France, je pense que 90% vous diront c'est la région. Après, quand on sait que les fonds régionaux, c'est un tiers des fonds européens, on se dit il y a deux tiers qui passent à côté. Voilà. Donc, moi, j'ai travaillé beaucoup avec cette équipe qui est dédiée, qui est compétente. Sur des actions ciblées, donc on a amélioré, on va dire, la technicité. On a créé un réseau de référents auprès de tous les services, c'est-à-dire que service transport, service culture, voilà. Maintenant, tout le monde a un référent Europe qui est l'ambassadeur de l'Europe au sein de son service et réciproquement, qui est l'ambassadeur des relations à deux sens, voilà. Donc, à partir de ça, on a créé des rendez-vous thématiques avec tous les services. Donc, tous les deux mois, on fait venir des experts et puis on acculture les gens, on met au jour un peu les opportunités européennes et puis on invite des gens extérieurs aussi parce qu'on n'est pas tout seul, tous nos satellites, toutes les structures de la commune, mais aussi d'autres structures. Alors évidemment, on cible tout ça. On ne va pas inventer des programmes pour aller chercher des fonds européens. On cible sur les priorités politiques de la ville et de la métropole. C'est-à-dire à partir du programme pluriannuel de la collectivité, c'est à partir de ça que l'on va chasser les fonds européens. Et on vise du concret, des actions concrètes avec des partenariats concrets, puisqu'on fait encore, on fait rien tout seul. Donc, c'est des réseaux d'influence, c'est des résultats quantitatifs. On mesure un peu nos actions. Et puis, ce sont des rendez-vous, les rendez-vous budgétaires. Donc, il ne vous a pas échappé qu'au 1er janvier dernier, une nouvelle perspective financière démarre, c'est-à-dire une programmation budgétaire sur 7 ans. Donc là, en ce moment, on est sur le démarrage de cette nouvelle période pour aller chasser ces fonds.
Alors, on va en parler là, de ces fonds et des possibilités qu'offre l'Union européenne ou les programmes européens en termes de financement pour certains projets de la métropole. Mais je voulais revenir à votre rôle. En fait, vous jouez aussi politique, je suppose, hein, le rôle de représentant de la métropole lors de séminaires et de rencontres organisées par l'Union européenne ou au niveau européen. Bon, vous soutenez effectivement les dossiers portés par la métropole lorsqu'il s'agit de demandes de financement dans le cadre de programmes européens. Est-ce que vous êtes aussi le relais, le conseiller, vous ou votre service, d'associations d'entreprises qui sont situées sur la métropole toulousaine lorsque celle-ci essaie elle-même de monter des dossiers auprès de l'Union européenne?
Alors oui et non. Évidemment, ce n'est pas une démarche exhaustive, parce que des grosses entreprises, les grosses entreprises sont parfaitement organisées
elles
pour aller chercher des fonds européens. Voilà, Airbus a des dizaines de personnes exclusivement chargées de ça. Donc évidemment, et puis c'est pour aller chercher des fonds de recherche les concernant ou des fonds de programme les concernant. Voilà. Ceci dit, si je prends un exemple récent, ayant eu connaissance qu'il y avait une initiative sur les aéroports verts en Europe, avec une initiative assez bien dotée, hein. Ben on a mobilisé l'aéroport de Toulouse-Blagnac qui a réagi en disant « mais oui ». Alors après, ils ne sont pas organisés pour aller chercher ces fonds. Donc c'est vrai que le premier contact, c'était la curiosité. Et puis l'opportunité quand même s'est faite jour. Et puis ils se sont joints à un consortium et ils ont gagné. Donc là, ça se chiffre en millions d'euros, un contrat de plus de 25 millions d'euros qui a été gagné il y a quelques jours. Voilà, pour une activité de 3 mois qui en plus va valoriser, parce qu'on avait des atouts. Un des atouts, c'était Commut, ce fameux contrat européen de plus de 5 millions d'euros sur le transport autour de la zone aéroportuaire. Eh bien, on va décliner Commut sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac dans ce consortium auquel participent Bruxelles, Athènes, Budapest et Toulouse. Voilà, on fait partie de ces 4 villes qui ont gagné avec la meilleure note qui puisse être obtenue de 15 sur 15.
Tout de même, je reviens à ma question. Là, si une association, une plus petite structure évidemment que peut-être Airbus souhaite monter un dossier européen ou se renseigner sur la possibilité de monter un dossier pour obtenir un financement européen, est-ce qu'elle peut s'adresser à votre service ou à vous directement?
Oui, alors encore 2 exemples. L'université fédérale a voulu monter une université scientifique du spatial, donc elle recherche un peu des ancrages territoriaux. Donc oui, on l'a accompagnée, c'est-à-dire en faisant des lettres de soutien, en mettant en contact avec nos réseaux européens. Je prends un autre exemple, la grainerie, vous voyez, notre école du cirque et de production qui est extraordinaire. On a un patrimoine en matière de création circassienne qui est remarquable à Toulouse. Ben, ils ont des équipes qui sont parfaitement formées à l'art d'aller chasser des fonds européens. Et là aussi, autant que possible, on contribue, on aide, on accompagne tous ces partenaires.
Et puis, vous parlez de partenaires, quels sont ceux avec lesquels vous travaillez sur le territoire de la métropole, mais peut-être aussi au niveau régional? Alors, je pense à la Maison de l'Europe, mais sans doute aussi au service Affaires européennes de la région Occitanie.
Oui, alors effectivement, on a un réseau d'associations européennes, donc là, la Maison de l'Europe, vous l'avez mentionné, mais on a un grand nombre d'associations, on a 5, 6, 7 associations européennes qui organisent des conférences, des événements, des rendez-vous, Pulse of Europe, qui est très active aussi à Toulouse, donc autant d'organisations qu'on accompagne. Dans le cadre de la Semaine de l'Europe, on doit avoir une 20aine d'associations qui sont accompagnées pour créer un certain nombre d'événements. Alors après, effectivement, vous avez cité la région, on est... du fait de ces fonds régionaux, hein, encore un tiers des budgets européens, bien entendu, on les a chaque semaine, on a une réunion avec les équipes de la région, mais aussi avec les associations européennes. Où, à force d'avoir acquis notre crédibilité sur le sujet, je suis vice-président de l'Association française du Collège des communes et régions d'Europe, hein, qui est une organisation qui regroupe, des centaines de régions et communes françaises, qui est associée à l'Association européenne de tous les territoires, donc c'est important. France Urbaine a maintenant une commission Europe. Je suis vice-président des Eurocities, hein, 600 villes et métropoles d'Europe. Donc, on fait partie de tous ces réseaux et associations qui nous permettent d'influencer. Ce qui est important dans la démarche, là, c'est d'influencer. Quand on est dans ces réseaux, c'est pour dire, vous voyez, il y a un agenda urbain avec 14 priorités, le fameux pacte d'Amsterdam de 2016 qui a fixé un certain nombre de priorités. Et bien après, moi, en tant que vice-président de ces associations, ça me donne le loisir d'aller voir, d'avoir des rendez-vous avec des commissaires européens dans des structures européennes importantes, puis pour dire, vous voyez, Toulouse, voilà les spécificités de Toulouse, voilà pourquoi les villes devraient être mieux considérées avec des budgets augmentés, qu'il y ait une politique urbaine. Voilà, ça fait partie de l'influence amont qui fait qu'ensuite bien des budgets seront fléchés à l'endroit des villes et des métropoles. Non sans succès, j'espère qu'on en parlera dans un instant.
Oui, bien sûr. Une dernière question. Est-ce qu'on peut parler de véritable rayonnement européen de la métropole toulousaine? On pense bien sûr à Airbus, mais est-ce que Toulouse est connue pour d'autres activités, d'autres entreprises, d'autres structures?
Ah, vu mon passé, je serais évidemment tenté de vous parler du spatial, évidemment, puisque quand même les plus gros programmes européens, je pense à Galileo, EGNOS, Copernicus, alors Galileo, EGNOS, sont nés à Toulouse, ont été inventés à Toulouse. Donc la première fois que Bruxelles a possédé, avec tous les guillemets qui s'imposent, autre chose que des bâtiments et des fonctionnaires, c'était Galileo, c'était EGNOS. Hein, donc une infrastructure spatiale terrestre à hauteur d'une dizaine de milliards aujourd'hui, hein, mais même davantage. Donc c'est né à Toulouse. Alors après, Toulouse, l'international, Toulouse par définition est une ville qui coopère, qui collabore, qui est dans les excellences scientifiques. Vous voyez, quand on parle d'industrie souveraine pour la relance, quand on parle de relocalisation, quand on parle de numérique, quand on parle aussi de solutions environnementales, quand on parle aussi d'agro-technologie, biotech, santé, c'est à Toulouse. On est écouté, on est entendu. Voilà, à chaque fois que j'ai l'occasion de m'exprimer ou que le maire s'exprime, ou que, vous voyez, on est une ville d'influence. Quatrième ville de France, première en matière de recherche, etc. Nous sommes écoutés, oui.
Alors, on va parler maintenant des financements dont a pu bénéficier Toulouse Métropole, ou certains projets de Toulouse Métropole, de la part de programmes européens. Alors, quels sont les projets qui ont été concernés jusqu'alors et quels sont ceux qui vont l'être ?
Oui, alors j'aime bien donner le chiffre de 63 millions, c'est-à-dire sur le mandat précédent, on a été chassé plus de 60 millions d'euros de fonds européens. Alors je vais vous en citer juste quelques-uns. En matière de transport, le téléphérique qui va être inauguré, Téléo, dont la construction est de plus en plus visible, ça va être superbe. Eh bien, on a récupéré 6 millions d'euros de subventions européennes. Et au départ, ce n'était pas prévu au budget. C'est-à-dire, les 82 millions d'euros du contrat étaient prévus. On a pu alléger ce montant à hauteur de 6 millions d'euros de fonds européens. Ce n'était pas donné au départ. Il a fallu, évidemment, se battre pour les obtenir. Ça ne vient pas tout seul. Hein. L'argent
non,
n'est pas demandé pour l'obtenir.
C'est justement que les gens comprennent bien qu'il ne suffit pas d'aller frapper à la porte de l'Union européenne pour que les espèces sonnantes et trébuchantes tombent dans la tirelire.
C'est ça. Beaucoup pensent même que ça vient tout seul sans même frapper. Mais bon, là, il faut négocier, il faut argumenter, il faut justifier derrière. Donc, en matière de transport, bon, Commute, on en a déjà parlé ici. Hein, comment fluidifier le trafic autour de la zone aéroportuaire, mais maintenant plus largement sur l'aire urbaine au travers de la loi LOM, hein, l'orientation sur la mobilité. Donc voilà. Après, sur le B612, là aussi des fonds européens, on a été récupéré plus de 2 millions d'euros de fonds européens sur le développement et l'accélération de l'innovation, mais aussi sur des sujets comme la prévention de la radicalité, des radicalités sous différentes formes. Là aussi, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros, enfin, peut-être 500 000 euros qui ont été récupérés de Bruxelles pour nous aider, pour sensibiliser, former tous les acteurs au contact de la radicalité et de sa prévention, voilà, avec plusieurs villes européennes. Et là, on travaille sur toutes ces techniques de prévention et c'est important. Après, je suis tenté évidemment de vous parler de l'environnement avec un programme de LIFE. Plus particulièrement, il s'agit de lutter contre le phénomène des îlots de chaleur en milieu urbain. Donc sur l'île du Ramier, là c'est un budget de près de 3 millions d'euros aussi qui permettent d'améliorer. Alors sur le sujet aussi de la rénovation énergétique, HEROS, projet européen.
HEROS, exactement. On a parlé récemment avec François Chollet, effectivement.
Voilà, donc ça c'est une bénédiction qui nous permet d'impulser. Alors outre le montant, il y a aussi la dynamique politique. Hein. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez cet ancrage européen, vous enclenchez quelque chose d'irréversible.
Vous êtes identifié.
Voilà, on est identifié. Ça permet de faire des petits. Vous voyez, je vous ai parlé de Commute tout à l'heure, qui nous permet aujourd'hui de réussir ce contrat avec les aéroports verts. Vous voyez, on enclenche quelque chose qui devient... Voilà. Et puis sur les sujets sociaux autour du PLI, hein, le plan local pour l'insertion et l'emploi, on a gagné aussi un contrat qui s'appelle Actel, aussi pour former des gens qui sont un peu en rupture, au bord de la rupture sociale peut-être même, à se réenclencher, à revenir dans les vertus du travail. Et vous voyez, donc on couvre un spectre très large.
Oui, et je ne crois pas me tromper en ajoutant que le projet de troisième ligne de métro va également bénéficier de financements européens pour une partie en tout cas de...
Alors ça, c'est l'exemple type, vous ne pouviez pas mieux tomber sur le rôle de l'influence amont et de la capacité à récolter derrière. C'est-à-dire, ça fait 3-4 ans que dans tous ces réseaux européens, je dis que Toulouse n'est malheureusement pas connectée à ce qu'on appelle les corridors européens. Les corridors, c'est les interconnexions entre villes européennes, interconnexions de transport, que ce soit aérien, ferroviaire, routier ou maritime, hein, par les canaux ou les fleuves, où là, Toulouse, un peu excentrée par rapport à... Et ne figurait pas dans ces réseaux transeuropéens. C'est une anomalie. Quand vous regardez cette carte des corridors, on se dit, mais la France a deux corridors, un qui longe l'Atlantique, l'autre la Méditerranée qui rejoint l'Espagne, au milieu, rien. Voilà. Et puis, il était impossible de créer des corridors transversaux. Alors, on a inventé, c'est vraiment notre équipe ici à Toulouse, on a eu cette idée d'étendre le corridor Atlantique jusqu'à Toulouse et d'étendre le corridor Méditerranéen jusqu'à Toulouse. Et bim, on a un corridor transversal, ça a été voté, et ça n'a pas été simple, je vous promets, parce que là, il faut œuvrer. Et donc, on a convaincu les ministères, on a convaincu Bruxelles, c'est fait. Donc maintenant, nous sommes connectés. Et maintenant, on a accès à 20 milliards d'euros. Alors, la France en a 2 sur ces 20 milliards. Et sur ces 2, eh bien, on va chasser des fonds pour la troisième ligne de métro, pour dire notre troisième ligne de métro va se connecter au réseau ferroviaire, va se connecter à l'aéroport. Et compte tenu de ces connexions européennes, eh bien, on pourrait être éligible à 200, 300 millions d'euros. On part en chasse, une offre doit être remise avant la fin de l'année, et j'espère à l'année prochaine avoir...
Ce sont vraiment des montants très importants.
Là, on chasse le gros.
Alors, on va parler maintenant de la Semaine de l'Europe, donc, qui a été lancée ce dimanche 9 mai. Alors, peut-être rappeler pourquoi c'est chaque année, le 9 mai, que c'est la Journée de l'Europe et c'est le lancement de la Semaine de l'Europe.
Ah oui, le 9 mai. Alors, le 9 mai, donc 9 mai 50, qui a été... trouvé comme date fondatrice de l'Union européenne en 85. C'est-à-dire, c'est pas le 10 mai qu'on s'est dit que l'Europe se faisait. C'est en 85 à Milan, je crois, puis en 86, on a célébré la première journée de l'Europe. Bon. Faut se remettre dans le contexte des années 50, guerre froide. Le combat entre les États-Unis et la Russie. Et puis on a Jean Monnet qui, dès la guerre de 14-18, avait dit il faut que l'Europe se structure, il faut qu'on ait un territoire, un bloc européen qui existe. Et plus personne ne peut rien faire seul. Ceux qui prétendent pouvoir faire seul à l'échelle d'un pays se trompent. Ça n'existe plus, que ce soit comment lutter contre le changement climatique seul, c'est pas possible. Comment avoir une politique du numérique, vous voyez, les sujets sont complexes et on ne peut plus rien faire seul. C'est incontestable. Voilà. Donc, sur fond de guerre froide, plusieurs tentatives déjà qui n'avaient pas vraiment abouti sur fond de plan Marshall, etc. Et là, Robert Schuman et Jean Monnet ont fait dans le plus grand secret quand même, il faut le savoir. On rédigeait cette première note et puis le 7 mai déjà, Schuman écrit à Konrad Adenauer, le chancelier allemand, pour dire « Et si je faisais ça, est-ce que... » Voilà. Le 8, il réunit les pères fondateurs, les 6 présidents ou chefs de gouvernement des 6 pays fondateurs. Il les appelle en disant « Et si je faisais cette déclaration, qu'en diriez-vous » C'est fait. Et puis le 9, donc, au Salon de l'Horloge au Quai d'Orsay, il fait sa déclaration. Un appel au gouvernement pour lancer ce fameux traité du charbon et de l'acier. Ensuite, il a fallu un an pour arriver au traité de Paris du 18 avril 1951. Ouais, merci. Et là est née cette communauté du charbon et de l'acier, avec tout pour un engagement sur 50 ans. Et puis ensuite, voilà, les traités sont succédés jusqu'à ce que...
Voilà pour la petite histoire du 9 mai, donc journée de l'Europe et journée de lancement de la Semaine de l'Europe. Semaine de l'Europe qui a lieu dans plusieurs métropoles européennes.
Oui, alors partout en Europe. À l'échelle de la métropole, historiquement, Toulouse était évidemment active. Saint-Alban, on avait Saint-Aurin, voilà, il y avait quand même une dynamique. Et là, au niveau de la métropole aussi, on rayonne davantage. Aujourd'hui, c'est 7, 8, 9, je crois, collectivités de la métropole. Alors, le 9 mai est une fête populaire avant tout. Le but, c'est de faire connaître l'Europe, de donner envie, de sensibiliser, d'avoir envie d'en savoir plus. On ne rentre pas dans la technicité. Et on a un programme. Chaque année, on a un gros programme.
Alors, cette année, c'est particulier parce que la Semaine de l'Europe... En fait, elle va durer jusqu'à la fin de l'année.
C'est ça. C'est-à-dire, il y a une journée de l'Europe. Alors à Toulouse, on s'est dit, nous, on va faire la Semaine de l'Europe parce qu'on a quand même, on a de gros marqueurs européens. Puis cette semaine est devenue peu à peu 15 jours, voire 3 semaines. Ça, c'est notre fond de sauce habituel. Puis là, cette année, déjà l'année dernière, on a bien souffert. Et là, donc, on a effectivement...
Vous avez labellisé des événements Semaine de l'Europe tout au long de l'année. Donc, on va commencer avec des événements. Est-ce qu'il va y avoir du virtuel numérique? Où est-ce qu'il va y avoir vraiment des événements En présentiel, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils vont accueillir du public.
Alors, de plus en plus présentiel, évidemment. Donc, ces derniers jours, on a inauguré le 9 mai avec cette fameuse exposition de Porto au-delà des frontières, hein, sur les grilles du jardin Raymond VI.
Loin de la radio, d'ailleurs.
Voilà, alors le choix de Porto n'est pas anodin. Le Portugal préside le Conseil de l'Union européenne en ce moment. Il y a quelques jours, il y a eu ce sommet européen des chefs d'État et de gouvernement sur le socle social de l'Union européenne, qui risque d'être voté sous présidence française. Là aussi, il y a quand même un fond de sauce.
Parce que la France va prendre la présidence du Conseil européen le 1er janvier 2022.
Pour 6 mois, c'est le premier semestre 2022.
Parce que c'est tournant. Hein.
C'est tournant, puis c'est pas fréquent. C'est-à-dire la dernière présidence française, c'est en 2008, la prochaine sera en 2035. Donc, vous voyez, et puis là, il y a une dynamique, puis on l'a bien vu avec tout ce qui se passe en matière de santé, les gens critiquent l'Europe en retard, etc. La santé n'est pas une compétence européenne. Ceci dit, elle s'est quand même emparée du sujet, non sans succès, parce qu'encore, tout seul, comment faire réussir à relever tel défi seul Donc là, il y a en plus de cette présidence française, a été ouverte, alors c'était démarré le 19 avril dernier, je crois, mais ça a été, le président a fait une déclaration, un discours, sur la consultation sur l'avenir de l'Europe. Donc là, démarre en ce moment une consultation sur l'avenir de l'Europe, c'est-à-dire quelle Europe veut-on, comment la refonder. Et là, il y a une plateforme qui a été ouverte. Alors, c'est très facile. Toutes les langues, ce que vous allez écrire sera traduit dans toutes les langues automatiquement. Il y a des logiciels remarquables maintenant. Donc, une plateforme européenne multiculturelle qui est remarquablement faite, où tout le monde peut apporter ses idées, etc., pour comment refonder cette Europe.
Alors, les temps forts de cette édition 2021, quels vont-ils être et où vont-ils avoir lieu? Donc, vous avez cité l'exposition, une exposition de photos Partir à Porto, hein, donc dédiée à cette belle ville du nord du Portugal. Les photos sont visibles sur les grilles du jardin Raymond VI depuis dimanche et jusqu'à la fin du mois de mai. Et puis, il va y avoir beaucoup d'autres choses. Alors, j'ai vu qu'il y a une autre exposition à Saint-Orens, par exemple.
Oui, Saint-Orens, belle exposition aussi. Il y a les Bauhaus avec le Goethe Institute, alors avec les Franca, on a pas mal d'associations, on en a même un grand nombre. On va avoir des webinars sur justement les financements, pourquoi, comment, pourquoi pas vous. Erasmus, évidemment, là aussi, il y a un nouveau budget Erasmus, donc comment mobiliser les jeunes, les étudiants, tout ça passe par la sensibilisation, des concours de photographie, donc la mobilité, oui, des infodays sur un certain nombre de choses, sur la désintoxication, sur le cinéma. On a l'Institut Cervantes le 25 mai, je crois. Donc, autour du cinéma, pas mal de choses, d'ailleurs.
Il y a une chose aussi avec le Goethe Institute, au Cinérex de Blagnac.
Oui.
Un film qui est un road movie à travers l'Europe. C'est le 21 mai, vendredi 21 mai à 21h. 303, c'est le titre, 303. Un road movie de Hans Weingartner qui invite les spectateurs à voyager à travers l'Europe à bord d'un van. C'est le Cinérex de Blagnac le 21 mai. L'exposition donc à Saint-Orens, on en parle. L'Europe à table. Alors ça, c'est intéressant, ça.
Oui, ça, ça fait deux, trois ans qu'on l'a initié. On s'est dit, mais l'Europe, c'est les jeunes. Enfin, il faut arriver à sensibiliser, puis donc sensibiliser les enseignants. Et là, on a demandé à toutes les collectivités de Toulouse Métropole de bien vouloir imaginer des menus dans leur cantine scolaire, des menus européens. Alors, telle municipalité va faire un menu portugais ou un menu allemand ou un menu... voilà. Et au travers de ces menus, c'est une manière de sensibiliser, puis de permettre aux enseignants de parler un peu de culture, des connaissances, des choses qui rassemblent, et la gastronomie ou la cuisine rassemble beaucoup, évidemment.
On a parlé de Porto, mais j'ai vu qu'il y avait également un événement Visiter Bruxelles. Je crois que ça va être par l'application Zoom, le 25 mai à 18h30. Bruxelles, capitale de l'Europe et des Flandres, séduit aussi par la diversité de son patrimoine, du Moyen-Âge à l'Art Nouveau en passant par le Baroque. Très belle ville que Bruxelles. Et puis l'Europe à l'école, découverte de l'Europe sur la piste des géants.
Oui, ça aussi, on a lancé, par exemple, un parcours à la Cité de l'Espace où les jeunes viennent, c'est une chasse au trésor, hein, on a distribué un petit papier, puis en disant, trouvez tous les ancrages européens qui se trouvent à la Cité de l'Espace. Alors, on a des satellites Galiléo, Copernicus, Sentinel 3, un certain nombre de choses en météorologie et autres, et puis les enfants vont parcourir, puis c'est l'occasion de sensibiliser aussi sur la recherche, l'innovation, les inventions, tout ce sur quoi les sujets que l'Europe finance, accompagne, pour relever des grands défis.
Eh bien, c'est un rapide aperçu, il y a beaucoup de choses, donc j'invite les gens à aller sur le site de Toulouse Métropole pour en savoir plus. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup Jean-Claude Dardelet d'en avoir été l'invité et de nous avoir présenté la programmation de la Semaine de l'Europe, ainsi que les relations qu'entretient Toulouse Métropole avec l'Union Européenne et le rôle que vous jouez dans ce domaine en tant que vice-président de Toulouse Métropole chargé de l'Europe. On a pu voir notamment que beaucoup de projets métropolitains ont pu bénéficier et vont bénéficier encore de financement dans le cadre des programmes de l'Union européenne. Je signale qu'on peut donc trouver l'agenda de la Semaine de l'Europe dans la métropole toulousaine en se connectant au site web de Toulouse Métropole à l'adresse www.toulouse-métropole.fr à la catégorie Actualité. De même, vous pouvez consulter sur le même site la rubrique Europe internationale à la catégorie Mission. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropolez-vous. Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.